cours de...
Je dois aller assez vite sur cette question de l'induction de l'ousia, de la substance, puisque cette année-ci, nous regardons le problème ultime de la métaphysique, la personne. Cependant, il est important de bien situer, de bien orienter, si vous voulez, cette première induction au niveau de la philosophie première. Qu'est-ce que c'est que l'être, le Tiesti? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'être dans ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est que l'être dans ce qu'il a de plus lui-même? Je fais appel là aux prédicaments qui font partie d'une certaine propédeutique philosophique que tous nous pouvons facilement saisir. C'est l'aspect descriptif de ce qu'est l'homme en tant qu'il est, la complexité de l'homme. Il y a en moi quelque chose fondamental, de premier. Quand je me regarde différent des autres, par rapport aux autres réalités. Je suis un homme. J'ai la nature humaine. Et je suis un être concret. Toute la différence entre Pierre et homme, entre moi-même comme être concret. Cette réalité commune qui m'unit à tous les autres hommes et qui me distingue de l'animal, de n'importe quel autre animal. Bien d'autres déterminations. Le lieu, l'action, la capacité d'encaisser, la passion, et toutes les déterminations. Il faut réfléchir sur ce problème classique, facile à comprendre, les 10 prédicaments. Et toutes les déterminations de la réalité qu'on peut décrire. J'ai l'expérience de certaines qualités, j'ai l'expérience de certains défauts, qui sont encore des qualités, hein, au point de vue métaphysique, sont des limites de mes qualités. J'ai l'expérience d'être dans ce lieu, dans ce temps. J'ai l'expérience du situs, parce que je me situe par rapport à tout un ensemble, par rapport à un tout. J'ai l'expérience que je suis capable d'avoir, de posséder. Quand j'ai l'usage, recueillie au point de vue de l'être. J'ai un habit. En grec, lexis, l'habitus. Il y a une marque particulière de moi-même qui fait que quand vous avez une chape, un manteau qui est déjà très usé, même s'il y en a 50, vous arrivez tout de suite à le distinguer en le touchant. Ça, c'est celui-là. Ah non, c'est pas ça. Il y a une appartenance, cette distinction très particulière. Qu'est-ce que c'est que ce lien de, par rapport à moi-même, qui, au point de vue l'analyse de l'être, c'est tout à fait dernier. Mais ma pipe, vous n'avez plus, mais vous voyez, pour certaines personnes, les vieilles bretonnes. Voilà, on a le moins ce spectacle maintenant, mais dans le temps, c'était très intéressant de voir les trains qui partaient vers Brest. Alors, quand elles étaient à Paris, c'était bien sage, mais dès qu'on quittait Paris, on les voyait reprendre ce qui leur appartenait, leur pipe. En dehors, il y a des endroits où on peut le prendre. Les objets qui vous appartiennent, les objets qui ne vous appartiennent pas, ça exprime quelque chose au point de vue de son être. Et puis c'est propre à l'homme, l'animal ne l'a pas. On peut mettre sur un animal, quand il fait très froid, un petit chien de luxe, bon, un petit habit. Et le chien ne dit pas c'est mon habit. Il ne saura pas le distinguer. C'est la maîtresse du chien qui tira, c'est son habit, vous. Surtout pas l'abîmer. Et le chien lui appartient. Surtout les chiens de luxe, plus ils sont chiens de luxe, plus ils appartiennent. Ce sont des gros chiens de garde. Il y a moins de propriété, c'est curieux, ça, ces choses-là, comme ça. Ça fait partie de ce qu'est la réalité. Mais je ne vais pas m'identifier à mon droit de propriété. Mais certaines philosophies identifient l'homme à son travail, à l'usage qu'il fait de son outil. Vous voyez, toutes ces déterminations se ramènent à ce qu'Aristote appelle la substance première, le sujet existant, distinct de toutes les autres réalités, mon exister, mon être. Et chacun dit mon être. Chacun peut dire ça. C'est à la fois, vous voyez, ce qu'il y a de plus commun et en même temps ce qui me sépare le plus de tous les autres, ce qui me distingue le plus des autres. Et cette différence, je la qualifie en disant, c'est l'exister d'un homme. Mon exister, c'est l'exister d'un homme. Et à côté de moi, si je suis à côté de quelqu'un qui peut dire la même chose, nous avons là une manière d'être, je dis bien une manière d'être, qui est la même, et qui pourtant, dans son individualité, est unique. De sorte que quand j'essaie de savoir qu'est-ce que c'est que l'être, l'expérience la plus parfaite que j'ai de la réalité existante, c'est moi. Après avoir être parti du ceci et je pose qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens à mon être, à moi, à l'homme. Je ne vais pas chercher ce que c'est que l'être en regardant la vache. C'est pas ce qu'elle broute d'habitude, n'est-ce pas? Vous voyez comme c'est curieux. Je pars du ceci et je reviens à je suis. Et je reviens à je suis parce que c'est à l'égard de je suis que je saisirai mieux la substance. Je me souviens quand je faisais ce cours de philosophie première à des étudiants. Ce soir, je voyais devant moi un frère qui avait une feuille de papier qui, pendant que je parlais sur la substance, touchait cette feuille de papier. Puis, alors, il dit, vous cherchez quelle est la substance, cette feuille de papier? Oui. Elle dit, vous cherchez et vous chercherez indéfiniment, vous ne trouverez pas. Regardez-vous, ça vaut mieux. Parce que vous avez que l'être dans le papier. C'est un être qui se vend. Ça se vend, le papier. Tandis que vous, ça ne se vend pas. C'est odieux de vendre un homme. Tandis que vendre du papier, non. Pourquoi? Et c'est vrai, il y a quelque chose de particulier. C'est que l'homme a une autonomie radicale. C'est donc un point d'être unique dans l'homme. Je peux vendre ma vache si elle m'appartient. Je peux vendre ma pipe. Je peux vendre tout ce qui m'appartient. Ce n'est pas odieux. Parce que ce n'est pas l'être dans ce qu'il a d'autonome, d'absolu. Vous voyez, je distingue tout ce qui est relatif et ce qui a un poids d'autonomie, c'est-à-dire ce qui est premier. C'est la première distinction que je fais pour m'amener à l'induction de la substance, pour arriver à découvrir ce qu'il y a de premier dans l'être. Le relatif n'est jamais premier. Le relatif est toujours relatif en. Est-ce que la pensée peut être ma substance? Non. Parce que ma pensée est relative à quelque chose. Je pense à une feuille de papier. Je pense à un ami. Je pense à quelqu'un. Je pense à l'être. Et la même chose pour l'amour. Vous voyez, cette induction cherche où il y a quelque chose de premier et j'aboutis nécessairement à voir que les deux choses qui s'imposent à moi comme première, c'est mon individualité et ma nature. Est universelle. Elle est la même que pour tous. Elle est commune. Et puis mon individualité est unique. Et j'aboutis à confronter ces deux premiers dans l'ordre de l'être. Il y a deux premiers dans l'ordre de l'être. Ma nature, c'est quelque chose de premier. C'est par là que je me différencie de toutes les autres réalités. Et puis mon individualité. Comme ces deux premiers sont deux, ils ne sont donc pas premiers. Je ne peux pas m'arrêter à la dualité. Il y a donc quelque chose qui fait que ces deux premiers sont premiers. Alors, vous voyez, c'est là où il y a un affrontement. Point de vue de la pensée. Ce par quoi Pierre est premier, son existence. créer l'homme. Il y a en lui quelque chose d'unique. Il y a une différence. Il y a une différence par rapport. Une différence radicale dans sa détermination, dans ce qu'il est. Et ici, il y a quelque chose d'unique qui le distingue de tous les autres. Oui, c'est curieux. La distinction y apparaît comme ce qui me permet de voir que Pierre, dans son existé, est premier. Pierre, dans sa détermination, est premier. Ils sont tous les deux premiers. Donc ils ne sont pas premiers de façon absolue dans l'ordre de l'être. Il faut donc découvrir ce par quoi Pierre est premier dans son existé, ce par quoi l'homme, Pierre homme, est premier dans sa nature, ce par quoi il est premier. Et donc la source qui fait que homme est premier et que l'existé individuel de Pierre est premier. C'est par là que je pose une source commune. Puisque je dis ce par quoi. Ce par quoi Pierre est premier dans son existé individuel. Ce par quoi l'homme est premier dans sa détermination. Donc, ce n'est pas la détermination de homme qui est première dans l'être. Bien que la détermination de homme est première pour moi. Ce n'est pas mon individualité existante qui est première dans l'ordre de l'être. Bien que cette individualité de mon existé est première pour moi. Oui, c'est cette manière de m'approcher de ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Parce que c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour l'autre. Pour chacun d'entre nous, nous pouvons distinguer notre nature et notre individualité. Il y a donc quelque chose d'antérieur à la détermination, de plus radical que la nature humaine dans l'ordre de l'être. Quelque chose de plus radical que l'existé individuel. Et ce quelque chose de plus radical est source de la détermination et source de l'individualité. Et cette source, je l'appelle substance. Ousia, ce par quoi l'homme est premier dans l'ordre de sa détermination. Ce par quoi l'homme est premier dans son individualité. C'est, puisque des deux côtés, c'est un certain absolu. Il y a donc cette première détermination radicale qui source de toutes mes déterminations jusqu'à mes cheveux, source de mon individualité dans mon existence. C'est la substance. Aristote donne ce petit exemple pour qu'on comprenne mieux. Dans le langage, je dis bas. C'est un petit exemple. Hein. C'est un petit exemple qui est merveilleux. Bas. Bas. N'est ni B, ni A. Il est bas. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui unisse ces deux. Puisque B n'étant pas A n'est pas uni à A, et A n'étant pas B n'est pas. pas unis à B. Il faut donc quelque chose qui les unisse. Ce quelque chose est principe de bas. C'est un exemple. Ne cherchez pas la substance de bas. Ce par quoi homme est homme, sa substance. Ce par quoi homme individuel est individuel. Oui, c'est le ce par quoi l'intuition, c'est toujours chercher la source, dépasser cette dualité et chercher la source de son unité. Chercher la source de l'unité de l'homme dans son individualité comme homme et comme individu. Alors, si je veux pousser un peu plus, je dirais, mais ici, je parlais de l'âme. Mais est-ce que ce n'est pas l'âme qui fait l'unité du corps et qui fait que ce corps est le corps d'un homme? Est-ce que ce n'est pas l'âme qui est source de mon individualité en assumant mon corps? Donc, ma substance, c'est mon âme. Quelle différence y a-t-il entre ma substance et mon âme? Ça m'aide, ceci. Ce n'est pas l'induction ici. Je compare. La philosophie première peut se servir de la philosophie du vivant. Or, en philosophie du vivant, j'ai découvert qu'il y a en moi, dans ma nature humaine, corps et âme. Mon corps est un grâce à mon âme. J'en ai l'expérience. Puisque si mon âme quitte mon corps s'en ira dans la diaspora, dans tous les sens, le cadavre. Ne garde pas son unité. Il s'en va dans tous les sens. Qu'est-ce qui maintient l'unité? C'est mon âme. C'est ma source d'unité, mon âme. Alors, pourquoi ne pas dire tout simplement que ma substance est mon âme? C'est tellement plus simple à comprendre. Tellement plus simple, puisque mon âme, j'en ai une certaine expérience. J'ai une certaine expérience que j'ai une âme. Moi, je peux avoir cette expérience, l'expérience de mon intériorité. J'ai une expérience de mon intériorité, sauf si vraiment j'ai vécu comme une bête. Parce que la vache n'a pas d'expérience d'intériorité. Je crois pas du tout. Elle n'a ni l'expérience de son poids, ni l'expérience de son intériorité. L'hippopotame n'a pas l'expérience qu'il est l'animal le plus lourd, le plus pesant. L'éléphant n'a pas l'expérience qu'il est un animal colossal. Tandis que j'ai l'expérience de mon intériorité. Et l'expérience de mon intériorité, c'est l'expérience de mon âme. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas mon corps visible. Il y a l'invisible en moi qui vit. Et à partir de là, je pose l'âme, source de toute la diversité qui est en moi, mais surtout source de l'unité. Alors, pourquoi j'éprouve le besoin de poser au-delà de mon âme la substance? Parce que je peux dire en toute vérité que mon âme est ma substance. Mais est-ce que je peux dire que la substance, c'est l'âme? Vous voyez, là, on touche un problème extrêmement important. Parce que c'est arrivé à distinguer ce qui est source. Normalement, c'est rare qu'on grossit au noviciat. C'est plutôt rare. Donc, cure d'approfondissement. Je m'approfondis, je me connais mieux, et extérieurement j'ai amaigri. Ça va mieux parce que je cours plus vite. Et à moi, c'est un peu moins lourd. C'est curieux ça, hein? La rencontre de la substance, source d'être, et l'âme, source de vie. Je dois donc dépasser l'âme pour découvrir la source de l'être, la substance. Et je précise, source d'être, selon l'interrogation qu'est-ce, c'est-à-dire source d'être selon la forme. La substance n'est pas source absolue de l'être, mais elle est source selon la forme. C'est donc par le point de vue de la nature, par le point de vue de la détermination essentielle qui est en moi, que je découvre Lucia. Et non pas par le point de vue de mon existence actuelle. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé les déterminations de l'être et j'aboutis à la détermination principale, l'homme, qui n'est pas Pierre, mais Pierre se comprend par l'homme. Et donc c'est bien par l'homme que je saisis la source propre de ce qui est. Et c'est pour ça que je dirais la substance est source principe selon la forme de ce qui est. Je vous indique ça seulement, hein, pas plus, je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Parce qu'on l'a vu ça. Pour ceux qui sont en seconde et troisième année, ils l'ont vu. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais ça, c'est autre chose. Ils ont au moins saisi qu'ils avaient une âme. Première année, je suis au prédicament. Description. Seconde année, j'ai une âme. Troisième année, ah, ma substance. De plus en plus. C'est très curieux. C'est une pénétration de plus en plus profonde vis-à-vis de ce que je suis. C'est toujours je suis. Je suis mon visage. Je suis ma main. Je suis mes yeux. Tout ça, c'est moi. C'est descriptif. Je ne peux pas prendre la photographie. Ah. Les gens qui aiment, tout de suite, dès qu'ils voient un beau paysage, la photo. On va prendre votre photographie. Oh, prenez, c'est l'apparence. Je suis pas là-dedans. Prenez tout ce que vous voulez. Si je prends un chapeau en plus, ça changera. Si je mets une pipe, ça changera. Si je fais... Vous voyez, ça change les apparences. Les 10 prédicaments. Je dors. Prenez ma photo, je dors. Ça voit d'importance. Des apparences. Je suis sensible aux apparences. Les 10 prédicaments. Je vais plus loin. Ah, il y a en moi un principe d'unité de vie, mon âme. Il y a en moi un principe d'unité d'être, la substance. Je passe des qualités. À l'âme. Je passe de mon intelligence à mon âme. Je passe de ma volonté à mon âme. Et je passe de mon âme à la substance. Ça, c'est plus difficile, plus raide. Mon âme et ma substance. Mais la substance n'est pas toujours l'âme. Parce qu'il peut y avoir des réalités qui existent sans être vivantes. Alors, est-ce qu'elles ont une substance ? Ou est-ce que la substance est toujours une âme ? place d'un très gros problème. Très gros problème. Est-ce que je peux dire que la Lune, où il n'y a pas de vie, est une substance? Est-ce que je peux dire que le Soleil est une substance? Je dirais plutôt que la Lune a une nature, et que le Soleil a une nature, puisque c'est en devenir. Ça bouge tout le temps, le Soleil, et la Lune aussi. Est-ce que vraiment il y a une autonomie dans l'ordre de l'être? Alors, ça, c'est la limite de savoir où il y a la substance. En moi, oui, il y a une âme. Et mon âme est quelque chose de substantiel. Et mon âme, c'est autre chose, découvrir mon âme, autre chose, découvrir la substance. Il y a donc une distinction que je fais au point de vue de ma connaissance entre âme et substance. Mais puis-je dire que partout où il y a une substance, il y a une âme? Là, je laisse un point d'interrogation. Je crois que partout où il y a une substance, il y a une âme. Je le crois. Dire aussi qu'il peut y avoir une nature non vivante, donc il n'a pas d'âme. Et cette nature a-t-elle une substance? Vous voyez, alors, j'arrive à distinguer trois aspects qui sont très importants à bien distinguer. Trois aspects. Nature. Substance. Nature, âme. Trois niveaux où je distingue nature-forme. Et je peux distinguer la forme distincte de la matière dans les œuvres d'art. La nature forme distincte de la nature matière dans les réalités qui sont des réalités naturelles. L'âme distincte du corps chez les vivants, chez l'homme, et la substance distincte des accidents. Et chaque fois, il y a une induction. Première induction. Deuxième induction. Troisième induction. Quatrième induction. Première induction, elle est très simple. Je vois une statue. C'est une statue de la Vierge Marie. Cette statue, elle est en bois. Il y a un bois très particulier. Hein, faites ça en allant dans une forêt européenne, c'est difficile. Je dis qu'elle est un bois d'Afrique. Donc je détermine le bois. C'est pas n'importe quel bois. Un bois d'Afrique. Elle vient du Togo. Donc, ce bois d'Afrique. Mais ça ne fait rien du tout par rapport à la figura. C'est pas le bois d'Afrique qui détermine la figura. C'est le sculpteur africain qui a eu cette idée. Et ce sculpteur aurait été européen. Son idée aurait été un tout petit peu différente. C'est sûr, ça. Il y a une petite marque africaine et qui se retrouve jusque dans la forme. Et il se retrouve dans la matière. Alors, vous voyez, il y a eu une induction à partir de l'œuvre artistique. J'ai distingué forme et matière. La forme, c'est peut-être la figura. La figura, la physionomie, sa détermination. première distinction, je la retrouve dans les réalités physiques. Réalité physique que j'expérimente. Une pierre, le feu. C'est pas la même nature. La pierre, le feu. Et l'eau. Il y a même des oppositions entre le feu et l'eau. Je me sers du feu. supposer, ça prouve que vous n'allez pas assez loin. C'est quelque chose de commun. En Amérique, il y a le feu. Et ça brûle des forêts. Comme en Europe, c'est curieux. C'est un feu américain, c'est un feu européen. Non, c'est le feu tout court. C'est curieux. Vous voyez que la philosophie va au-delà de la culture. Et si vous restez au niveau de la culture, ah, vous ne pensez pas. La culture ne me fait pas penser. Si je veux penser, je dépasse le feu et l'eau. Qu'est-ce qui unit l'Amérique et l'Europe ? L'eau. Ah tiens. Je peux me servir de l'eau pour aller en Amérique. Alors quand je suis devant un Américain, je dis tiens, tu es de l'eau, tu es du feu. Je suis les deux. Et toi ? Je suis les deux. Il y a peut-être un peu plus de feu d'un côté, un peu moins de feu. Je sais pas. En Europe, il y a des tempéraments de feu. En Amérique, il y a des tempéraments de feu. Est-ce que le nouveau président de la République, c'est du feu ou de l'eau ? Les partis politiques, c'est de l'eau et du feu. Au-delà de la distinction du feu et de l'eau, il y a la distinction de l'âme et du corps. Ah tiens, là encore, un Américain a une âme, il a un corps. Un Européen, il a une âme et un corps. Je peux dire la même chose pour l'Africain. Il a une âme et un corps. Tiens, ça c'est au-delà de la culture. C'est fondamental. Oui, la philosophie est au-delà de la culture. Je n'ai pas une philosophie au niveau de la culture, non. Non. La culture est au niveau de l'art. Ah tiens, oui. Oui. Et aujourd'hui, l'art américain, l'art européen. L'Amérique a pris beaucoup de l'art d'Europe. Des beaux musées américains. Ils ont chipé, ils ont acheté des quantités de choses d'Europe. Et ils se sont formés par là. Mais attends, il y a un art américain. Il y a un art africain. Oui, il y a quelque chose de commun. Il y a l'art humain. Et quelquefois, on retrouve chez un Européen de l'Africain. Et de l'Américain. Et chez un Africain, il y a un Américain de l'art européen. C'est curieux, il y a une mixture. Les cultures. Plus on avance, plus il y a quelque chose de commun qui se fait. Donc, même l'art, qui est source de cultures diverses, il y a quelque chose de commun. Dès que je pense au niveau philosophique, c'est commun. Y a-t-il une intelligence américaine, une intelligence européenne, ou y a-t-il une intelligence humaine ? Je crois qu'il y a une intelligence humaine qui se modifie en américain et en européen, mais c'est une modalité, c'est le comment. C'est pas du tout le TST. Alors quand j'oppose les cultures, je reste au niveau du comment. Je ne suis pas entré en philosophie. Vous voyez que comment la philosophie est source d'unité et de paix. Si on était tous philosophes, on serait l'humanité, au-delà des cultures. Il faut beaucoup réfléchir à ça, c'est très important, c'est pour ça que je fais de la philosophie, pour être au-delà des cultures. Il ne faut pas diviser, s'opposer. Il y a là quelque chose de très important à saisir. Alors quand quelqu'un reste au niveau des cultures, mon pauvre vieux, tu ne saisis pas l'homme. Dépasse un tout petit peu, va un peu plus loin. C'est une croûte extérieure, ça. T'as un peu plus loin et sois intelligent. Découvre ton intelligence. Et en découvrant l'intelligence, on dépasse la culture européenne, grecque. Et on découvre la culture américaine. On doit la dépasser pour retrouver l'homme. Qu'est-ce qui est à la source des cultures ? Est-ce que c'est l'homme ou c'est la culture? La grosse question est là. Est-ce que c'est l'homme qui est source des cultures? Ou est-ce que c'est la culture qui est source de l'homme? Posez-vous la question, hein, et donnez la solution. Si c'est la culture qui est source de l'homme, alors on ne va pas très loin dans la réflexion philosophique. On reste au niveau du comment. On reste au niveau de l'œuvre artistique. Et je ne saisis pas la source de cette œuvre artistique, qui est l'âme, qui est l'intelligence. Et je reste uniquement au niveau des figuras qui s'opposent, l'opposition de l'eau et du feu. Et c'est très important, l'induction. L'induction me délivre des cultures. Ah, tiens, des oppositions de culture. L'induction me délivre des oppositions de culture. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. J'avais jamais pensé à ça. La grande manière de dépasser les cultures, c'est d'induire. Parce que j'induis quelque chose de premier. Et la culture, c'est jamais premier. C'est toujours second. Alors, il y en a qui veulent s'installer toujours dans le second. Pourquoi s'installer dans ce second, ça? Question. Pourquoi on ne veut pas dépasser la culture? Et on veut rester dans sa culture. C'est qu'on a peur de perdre son originalité. C'est une peur de perdre son originalité. Et donc, c'est un fond d'orgueil. Parce qu'au contraire, si on est humble, on veut être avec tous. Et je veux m'enrichir de tout le monde. Je n'ai pas peur de perdre mon originalité. Mon originalité, qu'est-ce que c'est? Des accidents, des choses secondaires qui proviennent tout simplement des choses secondaires. Je vois très bien le bienfait de la culture, ça m'aide. Vous voyez, ce qui permet à l'enfant de croître. Un bain de culture permet à l'enfant de croître. Mais quand l'enfant a grandi et qu'il est arrivé à être un homme, ah, il est capable, à la place d'appeler tout le monde papa, de dire l'homme, et puis il y a mon père. Quand il fait cette distinction, il dépasse la culture. Vous voyez, ça c'est quand même très important de saisir que l'intelligence dépasse son milieu de pensée, de culture, pour arriver à être l'intelligence, grâce à l'induction. Dès que je découvre la substance, je découvre les accidents, qualité, quantité, relation. Or, la culture est faite de qualité, de quantité. De relations. Et la culture est au niveau des accidents. Et la métaphysique me met au-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas une métaphysique européenne, une métaphysique américaine, une métaphysique africaine. Alors, au point de vue religieux, c'est encore bien plus important. Puisque le point de vue religieux, nous le verrons. C'est ce qu'il y a de plus humain, de plus profondément humain. Et donc, il n'y a qu'une seule religion. Ah, il n'y a qu'une seule. Mais il y a beaucoup de dévotions. Les dévotions, je reste au niveau qualitatif, au niveau quantitatif. Parce que au Mexique, on met 3 cierges à la Vierge Marie. En Europe, on n'en met qu'un. C'est curieux. Ça, c'est la dévotion. Mais, quantité. Il y a des peuples qui se mettent à genoux, qui se mettent à plat. manières différentes de voyer. Et ainsi de suite. Les accidents.